93.3. Les actualités Cogeco Nouvelles.
Le dimanche 4 mai, ici Karl Marchand. Bonne fin d'avant-midi, mesdames et messieurs. Le président américain Donald Trump affirme ne pas vouloir faire un troisième mandat, même si plusieurs de ses partisans le souhaitent. Donald Trump a fait cette déclaration dans le cadre d'une entrevue à Meet the Press dimanche sur la chaîne NBC. Le républicain a également dit qu'il ne savait pas s'il avait le devoir de faire appliquer la Constitution en matière d'immigration. Son administration a lancé la déportation de nombreux immigrants, des déportations contestées devant la Cour suprême. Donald Trump a cependant affirmé qu'il se plierait aux décisions du plus haut tribunal du pays. De retour chez nous, Éric Duhaime tentera de faire son entrée à l'Assemblée nationale. Le chef du Parti conservateur du Québec lance sa campagne cet après-midi dans la circonscription d'Arthabasca au centre du Québec. Le comté qui englobe les villes de Victoriaville et Plessisville est vacant depuis la démission du député Éric Lefebvre qui vient de se faire élire sur la scène fédérale. Aucune date n'a encore été retenue pour la tenue de la partielle. Le vote doit se dérouler au plus tard le 18 septembre. Le Parti conservateur du Québec avait bien fait dans Arthabasca en 2022 en raflant plus de 24% des voix. Un accident de VTT a fait un mort hier soir en Outaouais. Le drame s'est déroulé vers 21h sur le chemin Richard à Island et Kaywood. La victime est un homme âgé de 70 ans, Elisabeth Marquigui, porte-parole de la Sûreté du Québec.
Selon les premières informations, le véhicule serait entré en collision avec un arbre. Malheureusement, son décès a été constaté sur place.
Une enquête collision est en cours. À Montréal, le syndicat représentant les 450 employés du magasin IKEA estime que l'enjeu de la grève de 10 jours déclenchée hier va au-delà de la question salariale. Le président Élisette Rennes croit que l'employeur cherche aussi à dissuader les employés de ses autres magasins de se syndiquer. Le IKEA de Montréal est le seul au Québec à être syndiqué, ce qui expliquerait selon lui que les salaires y sont moins élevés que dans d'autres succursales.
Lorsqu'on regarde aussi à l'intérieur de IKEA, il y a IKEA Boisbriand, ils sont à 27 et 75 ans les environs. Et c'est ce que IKEA Canada essaie d'éviter. Ils ne veulent pas que ça soit attirant d'être syndiqué. Donc, ils luttent vraiment pour nous faire la vie dure. Donc.
Des rencontres de négociation doivent se tenir demain. Un autre débat en anglais, cette fois, doit avoir lieu au Parti libéral du Québec. Et hier, à Laval, le premier de 6 débats a eu lieu sur le thème de l'économie. Les 5 aspirants chefs se sont affrontés. Louis Lacroix.
Comme il fallait s'y attendre, Pablo Rodriguez a été la principale cible de ses adversaires et son passé d'ex-ministre de Justin Trudeau n'a pas échappé à Charles Milliard.
Est-ce qu'une chose qu'on fera pas, c'est envoyer des chèques à tout le monde comme la CAQ?
Oui, bien, premièrement, Pablo, je suis content de voir que tu ne veux pas envoyer de chèque. Parce qu'évidemment, il y en a eu beaucoup au fédéral, mais c'est une petite blague.
La question de l'autonomie énergétique est revenue durant tout le débat. Le candidat Blackburn estime d'ailleurs qu'il faut relancer les grands projets de gazoduc.
Nous devons absolument évaluer des nouveaux projets pour nous permettre d'aller chercher cette indépendance énergétique.
Et en guise de conclusion, les candidats ne s'entendent pas sur qui sera le prochain adversaire des libéraux. Mario Roy croit que ce sera le Parti québécois.
Je suis jeune, il est jeune. Alors, j'ai tout ce qu'il nous faut. Je suis le seul dans la course pour battre Paul Saint-Pierre-Plamondon et remporter les prochaines élections.
Et quant à Marc Bélanger, il dit représenter la majorité silencieuse.
Il me semble que ça n'a aucun sens, que ça aille si mal quand on a autant de potentiel au Québec.
Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles, Laval.
Au sport au soccer de la MLS, le CF Montréal s'est incliné 2-1 devant l'Union de Philadelphie hier soir au stade Saputo. Le 11 Montréalais n'a pas encore gagné un match cette saison. Le milieu de terrain Nathan Saliba.
Il faut se garder responsable dans nos erreurs. Donc ouais, c'est pas de la frustration pour amener l'équipe vers le bas. C'est vraiment pour garder le standard haut et continuer à performer au meilleur niveau possible pour tout le monde individuellement.
Le CF Montréal reprend l'action samedi prochain alors qu'il visitera le New York City FC. Vous écoutez Cogeco Nouvelles. De 19 aujourd'hui à Montréal avec alternance de soleil et nuages. 18 à Québec et ce sera généralement ensoleillé. Quelques averses vont cesser en mi-journée. À Sherbrooke, ce sera généralement nuageux par la suite, maximum 18. Du soleil à Gatineau, alternance soleil-nuages à Trois-Rivières, les deux villes avec un maximum de 19. 30% de probabilité d'averses tôt cet après-midi à Saguenay, maximum de 12. Soleil-nuages à Montréal avec 17 à l'aéroport Montréal-Trudeau.
Cogeco Nouvelles. CFIX FM 93. Vous allez en entendre parler. Si ça se passe dans la région, si c'est important, si c'est intéressant, vous allez en entendre parler à CFIX FM 93. Au réseau Cogeco Média, voici les amateurs de sport week-end. Pour ceux qui en mangent du sport. Sport Week-end avec Jean-Sébastien Hamel.
Et oui, c'est Jean-Sébastien Hamel qui est avec vous aujourd'hui en remplacement de mon ami Jérémy Rainville, que je salue. Je vous souhaite un excellent dimanche 4 mai 2025. Il est 11h05. Bonne fin d'avant-midi avec nous. Ça en est passé des choses dans le monde du sport hier. Ça en passera à nouveau aujourd'hui. On va faire un gros survol de toute l'actualité sportive au cours de la prochaine heure jusqu'à midi. On est là pour vous couvrir tout ce qui peut vous intéresser dans le monde du sport, soyez-en certains. Évidemment, fin de semaine historique pour une équipe de Montréal, une nouvelle formation de la Super Ligue du Nord, le soccer féminin qui nous a procuré de belles émotions. On aimerait en dire autant du soccer masculin. CF Montréal s'est incliné, mais nos Roses qui disputaient un premier match à Montréal, ben, Laval techniquement, on les appelle les Roses de Montréal, mais le Stade Boréal est situé à Laval, une salle comble hier, début d'après-midi, formidable retour dans un match où elle tirait de l'arrière initialement et c'est une victoire de 2-1, donc elle demeure invaincue, toujours en tête du classement de la Super Ligue du Nord. Et la présidente de l'organisation, Annie Larouche, sera avec nous dans une quinzaine de minutes pour revenir sur l'engouement, l'effervescence autour de cette équipe-là. C'est la belle histoire à surveiller au cours des mois qui s'en viennent jusqu'à l'été 2025. Autrement, il y a un jour, c'est jour de Grand Prix aujourd'hui, à Miami. La course qui promet cet après-midi, il y avait l'épreuve sprint hier qui a été dominée, je vous dirais, non pas par un pilote, mais par la pluie, qui a volé toute l'attention, toute la vedette au pilote hier avec un nombre incalculable d'accrochages durant l'épreuve. Finalement, ben aujourd'hui, on va pouvoir se concentrer sur l'épreuve. Ce sera surveillé parce que Max Verstappen est en position de tête pour amorcer cette course-là. Mais il faut pas négliger non plus les McLaren, pas très loin derrière. Alex Tagliani va nous faire un tour d'horizon complet, va mettre la table pour cette épreuve. Et ce sera aussi le gratin de vedette à surveiller. Même si vous aimez pas ça, les courses, la Formule 1, juste de voir le jet set autour de cette épreuve-là, c'est incroyable. Puis on pourra parler aussi du phénomène F1 aux États-Unis qui renaît de ses cendres. Fut un temps, on montre qu'il y a peut-être une dizaine, une quinzaine d'années, américain égale NASCAR davantage. Tandis que là, il y a une nouvelle génération, les plus jeunes qui s'intéressent à la Formule 1. C'est sûr qu'il y a eu Drive to Survive, la télé-réalité disponible sur Netflix qui a fait en sorte qu'il y a un engouement nouveau, un renouvellement de la clientèle également. Et il y a de nombreuses épreuves maintenant qui sont présentées aux États-Unis. Fut un temps, il n'y en avait même plus. Souvenez-vous, il y a de ça quelques années. Alors, c'est un retour réussi depuis que Liberty Media a acquis la Formule 1 à l'époque là, de Bernie Ecclestone. Alors, Alex Tagliani va nous en parler en détail tout à l'heure. Et Philo également, pour revenir sur la défaite crève-cœur des Blue Jays de Toronto. Écoutez, on était en fin de 9e manche, 2 retraits. Toronto mène 3-1. Pensait que c'était dans la poche. Mais non. Un grand chelem de Schneeberger hier qui a fait la différence pour aider donc les Guardians de Cleveland à l'emporter. Alors, une défaite qui fait très, très mal. Les Blue Jays qui venaient de renouer avec une fiche parfaite, pas parfaite, mais plutôt une fiche de 500 avec autant de victoires que de défaites. Mais malheureusement, on est de retour dans le déficit. Alors, Philo va nous donner là, son analyse de la chose et la série qui va se poursuivre d'ailleurs aujourd'hui entre Toronto et Cleveland. Mais d'abord, revenons sur la fin de la rencontre hier entre les Stars de Dallas et l'Avalanche du Colorado. Ça a été assez spectaculaire, messieurs, mesdames. Lindell didn't get good one on it, but Sagan got it out. Rantanen again! Pour Rantanen, qui marque dans un filet désert, c'était son 3e but, non pas juste du match, mais de la 3e période. Imaginez les Stars de Dallas qui éliminent l'Avalanche du Colorado. Rantanen, c'est l'ancien de l'Avalanche qui a été échangé aux Hurricanes, que les Hurricanes ont transigé par la suite à Dallas. Alors peut-être que vous étiez couché là à cette heure-là, parce que vous dites, bon, en 3e période, 2-0, l'Avalanche, c'est dans la poche, ils vont accéder au prochain tour. Faut jamais se coucher trop tôt quand c'est les séries éliminatoires. Stéphane White est avec nous pour revenir sur cette rencontre-là, pour vous parler également du 7e match entre les Blues et les Jets ce soir. Salut Steph!
Salut JS, comment ça va?
Ça va bien. Si on faisait un titre là, pour ouais, comme exemple un film ou une série là, sur les plateformes numériques, on voit la revanche de Rantanen serait un excellent titre, je crois, pour résumer cette série-là.
Incroyable, c'est incroyable. ça fait mal à l'Avalanche. Écoute, on parle de 2-0 en troisième période. C'est plus que ça. C'est 2-0, il restait 12 minutes à jouer. Seulement 12 minutes, c'est incroyable le revirement. Et on voyait les joueurs de l'Avalanche après le match, c'était comme, ils étaient comme dans un cauchemar. Il y avait de la misère à croire qu'est-ce qui venait de se passer. Et comme tu dis, Rantanen, quelle série. En ce moment, c'est le meilleur marqueur des séries, en passant. Et quelle troisième période, et même quelle troisième période. Il a été incroyable, et ça fait doublement mal quand tu sais que ce gars-là, il y a quelques mois, faisait partie de ton équipe.
Imagine, Rantanen, là, 11 points dans les 3 derniers matchs de la série. Juste, c'est sûr que le dernier match, c'est quand même 4 points. Là. C'est sûr que ça aide à gonfler la statistique. C'est quoi le post-mortem qu'on va faire chez l'Avalanche du Colorado? Parce qu'on se disait que ce club-là avait tous les éléments, tous les ingrédients, surtout suite à la date limite des transactions pour se rendre jusqu'à la Coupe Stanley encore cette année. Qu'est-ce qui a fait en sorte que malheureusement, on n'a pas été en mesure de venir à bout des Stars? C'est quand même un bon adversaire, mais pourquoi ça n'a pas fonctionné?
Ben pourquoi? Je veux dire, il n'y a pas grand-chose qui n'a pas fonctionné pour l'Avalanche. Ils ont eu une très bonne série. En partant dans le filet, j'ai adoré Mackenzie Blackwood, sa première expérience en série. Pour moi, il était bon. Il a même été meilleur, légèrement meilleur, à mon avis, que Jake Oettinger. Donc, dans le filet, c'est pas un problème. Défensivement, je trouve que cette équipe-là a bien joué. Tu regardes le 6 défenseur, c'est impressionnant. La seule affaire, c'est que tu viens d'affronter peut-être la meilleure équipe. Moi, depuis le début de cette série-là, je dis le gagnant de cette série-là va être en finale de la Coupe Stanley. Et puis, c'est assez incroyable, ces deux équipes-là. Je regarde les alignements des deux bords. C'est tellement impressionnant que ce club, ces deux équipes-là se prennent en partant. Et cette valeur, il y en a un des deux qui était pour perdre. Et puis c'est Dallas qui manque deux de leurs meilleurs joueurs.
Mm-hmm.
Leur meilleur défenseur, Miro Heiskanen, et Jason Robertson à l'avant. Et j'écoutais l'entraîneur DeBoer après le match hier. Et ces deux-là vont revenir. Et ça, je sais pas si ça va être le premier match, le deuxième ou le troisième match, mais les deux sont très près d'être de retour. Donc imagine-toi l'alignement de Dallas quand ces deux gars-là vont revenir au début de la prochaine série, qui va être contre Winnipeg ou Saint-Louis, le gagnant de ce soir. Donc non, moi c'est pas l'Avalanche, c'est pas dire l'Avalanche ont choqué, ont pas bien joué. Mais l'Avalanche a eu le malheur de jouer contre probablement la meilleure équipe dans l'Ouest.
Le format des séries est ainsi fait. C'est sûr qu'il y en a qui aimeraient qu'on revienne à une formule 1-16, 2-15, mais bon, ouais. Je suis pas sûr que ça va arriver éventuellement. On veut des rivalités. Mais tu sais, l'Avalanche Colorado, il y a quand même un phénomène particulier cette année, Stéphane. Ils ont échangé presque la moitié du club. J'ai rarement vu un... Écoute, 9 joueurs dans une équipe, là, c'est assez solide. Pis...
9 nouveaux joueurs.
Écoute, c'est de créer l'unité puis la chimie en série. On sait à quel point c'est important dans les fameux intangibles dont on parle depuis toujours. Est-ce que ça peut avoir eu un rôle à jouer ou pas selon toi?
Pas selon moi, parce que ça s'est fait tellement de bonheur dans la saison. On parle de Ram Tannen, ça s'est fait avant les fêtes. Et je pense que c'est une des bonnes additions. L'addition de Mackenzie Blackwood au mois de novembre, c'était une très, très, très bonne addition pour cette équipe-là. Après ça, on a eu... La seule déception, un peu, c'est Nikas qu'on a eu pour Ram Tannen, entre autres. Il n'a pas été aussi dominant qu'on aurait aimé qu'il soit. L'addition de Landeskog dans la série, la dernière série, a donné un petit boost. Mais il reste que, regarde l'alignement de l'Avalanche, il n'y a pas grand changement à apporter pour l'année prochaine. Ils ont une couple de joueurs à re-signer. Mais moi, j'aime mieux me concentrer sur Dallas. Dallas qui est impressionnant. Dallas, le entraîneur-chef, bravo Peter DeBoer. Il est 9-9 dans les 7e matchs. C'est un record de Ligue nationale.
Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens.
Il perd pas dans les 7e matchs. C'est il fait quelque chose de pas pire à ce niveau-là.
C'est sûr. Puis à l'inverse, il y a quelque chose que l'Avalanche ne fait pas de pas pire pendant un 7e match, parce que la dernière fois qu'ils en ont gagné un match ultime, c'était en 2002. Patrick Roy jouait dans ce temps-là, Stéphane.
Ben, exactement. Eux autres, tout ça. Eux autres, c'est le contraire. C'est 7e défaite en ligne en match 7.
Quand même pas rien. Ce soir, donc, autre...
C'est incroyable.
Autre match numéro 7.
C'était tout un match en passant.
Ah ben oui, hier, oui, non. C'était un bon spectacle. Puis là, c'est une leçon, c'est une morale. Je sais qu'on est dimanche, tout le monde travaille demain, mais couchez-vous pas trop tôt ce soir parce que Blues, Jets, ça aussi, ça va être excellent. La bonne nouvelle, c'est que ça commence un peu plus tôt, c'est à 19h au lieu de 20h. Et là, c'est la rédemption que souhaite obtenir Connor Hellebuck, le meilleur gardien de la LNH qui, en séries éliminatoires, particulièrement cette année, le gâteau lève pas. Surtout pour les matchs à Saint-Louis, il a été retiré du match trois fois dans la même série. Puis on parle pas d'un pied de céleri, là. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'en série, est-ce que c'est entre les deux oreilles ou c'est de la fatigue physique parce qu'il joue un nombre de matchs quasi record à chaque année en saison régulière?
Ben, c'est un des deux. C'est exactement un des deux. Je regarde Connor là-bas tous les matchs et il m'a l'air d'un gardien de but et je ne sais pas parce que je ne parle pas avec, mais si je parlerais avec, je pourrais voir c'est quoi le problème. Mais de l'extérieur, il y a deux choses. C'est soit que mentalement, la pression est trop grosse sur lui. Il a de la misère à jouer que cette pression-là de devoir gagner en série. Ou il est fatigué. Ça, c'est un des deux qui sont